un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, je suis 21h.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Les amoureux, les amis et les résistants inventent des langages secrets. Les lettres y sont retournées, augmentées d'une rondeur ou amputées d'un bâtonnet. Retirer le trait du milieu d'un A, par exemple, c'est lui donner de l'air, c'est ôter un barreau de l'échelle, donc obligé à se hisser autrement, et c'est éventuellement lui suggérer d'être anarchiste. Le disque dont on parle ce soir s'appelle Vacarme, et le A du milieu jouit de cette liberté. C'est surtout le disque que souffle cet air, en fait, et en lieu et place du vacarme annoncé, on y entend respiration d'une présence, inquiète parfois, intermittente, et délicate toujours. Carla Palone, Christelle Lassor, Gaspard Klaus, vous formez le trio de cordes Vacarme, et si vous comptez quelques concerts à votre actif, c'est le premier disque au disque du Festival Permanent. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir Marie.
Merci d'être là pour une spatialisation. On va faire un Carla Palone, bonsoir.
Bonsoir.
Christelle Lassard, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gaspard Klaus, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a des concerts, il y en a un qui est totalement, absolument, totalement complet. 1er mars, à l'église Notre-Dame-de-la-Croix, à Ménilmontant, à Paris. Et il y en a un qui vient de s'organiser.
À l'instant, juste avant d'ouvrir l'antenne.
Voilà, le 2 mars, donc le lendemain. Peut-être dans le même endroit.
Il y a de fortes chances que ce soit dans le même endroit. On vous tiendra au courant si on trouve une autre crypte pour varier les plaisirs.
Ok. Et est-ce qu'on pourra vous entendre autre part qu'à Paris?
Oui, mais pour le moment, c'est quoi? C'est pas encore fixé?
Si, il y en a un dont on peut parler, je pense, depuis cet après-midi d'ailleurs.
Ouais,
on sera dans le festival où on boit les premiers pastis de l'été, le Yé Festival à Lourmarin.
À quelle époque?
En juin. Autour du
2 juin.
D'accord. J'allais dire le 8. On n'est pas encore très précis, mais au moment du Yé en tout cas.
Où on était déjà l'année dernière, donc on.
Il y a 2 ans.
Vous êtes fidèles.
Envie d'y retourner.
Et puis on mettra tout ça de manière très claire sur le site internet.
Après il y a des histoires, il y a Angers par exemple en juillet avec une partie de Vacarme, il y a plein de... On vous tiendra au courant.
On écoute. C'est le V de Vacarme. Je ne sais pas si c'est possible de découper ce disque en lettres, mais en tout cas, si on le découpe en lettres, ça s'arrête comme ça. C'est le temps qui commence à courir dans ce disque. Si on remonte le temps et qu'on raconte votre rencontre, qui s'y colle? Carla Palone.
Alors, notre rencontre en quelle année?
2012.
2012, à Toulouse, avec Yann de Strenny Dors, avec qui moi je travaillais déjà. Et puis à cette occasion, on a décidé de faire des arrangements pour ces morceaux. Et j'ai à ce moment-là invité Christelle, qui a invité Gaspard. Et Yann n'était pas tout à fait en forme. Donc on s'est retrouvés pas mal tous les trois. Et voilà, vacarme est né.
C'est là qu'on s'est rendu compte du plaisir qu'on avait à jouer ensemble. On a eu beaucoup d'espace pour jouer ensemble sur cette première résidence.
Donc la possibilité de beaucoup ressentir de plaisir. Quand on parle de rencontre, on parle de terrain de rencontre, enfin un endroit où on sent que ça prend. Ça a pris à quel endroit pour vous ? C'est pas facile à décrire, mais pourquoi ça marche ?
Bah, je pense qu'il y avait vraiment cette richesse. Et puis, au départ, pour travailler sur les arrangements de Yann, on avait peut-être un rocher commun. Et puis, cette possibilité, cette liberté de s'étendre chacun, d'ouvrir des perspectives. Peut-être Gaspard avec une approche un peu plus bruitiste. Et puis, nous deux, sur des tessitures de violon différentes. Enfin, tout à coup, d'avoir la possibilité d'explorer la musique en grand, enfin, en large.
C'était la sensation, une sensation qui était partagée pour vous trois, d'avoir, parce que vous étiez déjà dans une dynamique, les uns et les unes et les autres, d'explorer avec beaucoup d'espace, de liberté, vos pratiques musicales. Là, c'était encore plus de liberté.
En fait, on vient vraiment chacun d'univers très très différents. Et je crois qu'on sur ce moment-là, à cet instant-là, on se rejoignait à un endroit très informel. On n'avait pas vraiment envie de lui donner de forme. On s'est dit si on exploitait ce truc-là, de pas donner de forme, mais de simplement partager ce qui va se passer là à l'instant. Et je me souviens que c'est vraiment né au moment où on était en train de s'accorder avant le concert. Et donc on s'était dit on va faire des sons filés pour juste s'écouter les uns les autres. Et puis de ça est né un accord. Un peu dissonant, puis un deuxième, puis un troisième. Puis là, on s'est regardé, on s'est dit, mais ça pourrait être un morceau, ça, par exemple. Et puis, à chaque fois qu'on s'est retrouvés, c'était comme ça, très informel. Et ça a donné, finalement, une identité à ce personnage à trois têtes.
Votre vie de travail se passe de cette manière-là, c'est-à-dire que vous vous retrouvez, puis vous vous quittez, puis vous vous retrouvez, ou il y a toujours quelque chose qui continue d'être en lien entre les trois musiciens que vous êtes ?
On a décidé une des premières fois qu'on a joué juste vacarme sans collaborer avec un autre musicien.
Chose que vous faites beaucoup.
De collaborer, oui. C'est vraiment deux facettes de notre travail. Et on avait un peu préparé ce qu'on allait jouer. Et on s'est senti coincé par ce qu'on avait préparé. Et depuis, quand on est invité à jouer quelque part, on commence par se demander quel est le lieu dans lequel on va jouer, comment il est constitué architecturalement, où le public se place. Christelle et Carla peuvent jouer debout et donc se déplacer en jouant. On peut être amplifié, on peut être acoustique, on peut jouer avec les lumières. Et donc, on définit ce qu'on va jouer en fonction
du
lieu de rendez-vous. Ouais. Et ça se décide parfois le jour même, parce qu'on découvre le lieu le jour même.
Oui, il y a vraiment cette volonté, quand on n'est pas arrangeur, d'être du côté de l'expérience musicale, peut-être même de la performance, en fonction de l'endroit, en fonction de l'acoustique, en fonction du public.
Quand vous n'êtes pas arrangeur, c'est parce que, vous le disiez, Gaspard Claus, il y a une partie de votre travail qui consiste à travailler avec d'autres. D'ailleurs, ça a été aussi des rendez-vous assez forts pour vous et pour l'identité de Vacarme. Est-ce qu'il a fallu se parler d'où vous veniez, vous deux au violon et vous au violoncelle? De quoi vous aviez été pétri? Quelles étaient vos influences? Quels étaient vos amours? Quelles étaient vos envies? Est-ce que vous avez dû mettre ça en mots?
Entre nous?
Ouais.
Ouais, oui. Ça.
Oh, moi, j'ai l'impression qu'il a fallu jouer plutôt que parler.
Disons que c'est venu après, quoi. On s'est rencontrés d'abord... D'ailleurs, tous les deux aussi, Gaspard, je me souviens, au sein de Farewell Poetry, à l'époque, on s'est d'abord rencontrés avec le
cordé. Il y a eu une vraie surprise la première fois qu'on a joué ensemble avec Christelle. Moi, je connaissais pas Carla encore. Et je pense que j'ai entendu son violon et on était coincés dans l'appartement d'un pote qui nous faisait enregistrer. Et je crois on s'est vite appelé frère et sœur carrément sur le son. Et du coup, on est parti de ce plaisir de jouer. Et après, cette phase-là, de définir de retrouver nos identités à chacun et de les préserver, elle s'est posée plus tard. Une fois qu'on avait vu que ce territoire qui nous est commun et qui nous surprend à chacun est apparu, il a fallu qu'on trouve chacun notre place dans ce nouveau petit paysage qui s'est dessiné entre nous et qui nous surprend à tous.
Et est-ce qu'il s'explique, ce paysage commun ? Est-ce qu'au final, le temps a passé, quelques 5 années quand même, et vous permet de dire, ah oui, mais en fait, si on se retrouve, c'est parce que quand même, il y a ça chez moi, Gaspard Claus, il y a ça chez moi, Christelle Lassard, il y a ça chez moi, Carla Palone, qui fait que, oui, en effet, c'est pas complètement un hasard, en fait, qu'on se retrouve frères et sœurs.
Bah, je pense qu'il y a surtout cette volonté de préserver cette richesse et ce paysage commun en disant, voilà, on a des entités différentes et il faut les garder. Parce qu'on n'essaye pas d'être un trio au sens classique du terme. On sait qu'on n'a pas le temps d'avoir un son de trio comme l'auraient des gens qui jouent des œuvres du répertoire. et au contraire, il y a vraiment cette envie que ces trois entités, elles peuvent se compléter.
Ça veut dire quoi ne pas avoir le temps de trouver un son à vous? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression de strictement l'inverse.
Disons que ouais, le son de vacarme, c'est vraiment l'addition de trois sons très distincts, je pense. Ça fait le son de vacarme. Un son de trio ou de quatuor à cordes va plus être un son commun, où les quatre ou trois personnes qui travaillent ensemble vont aller vers ce son commun pour faire
pour sonner comme un seul instrument.
Pour sonner comme un seul instrument. Alors que nous, on a vraiment trois couleurs très différentes et je pense à les garder. Voilà.
La manière dont se produit un Wolfstone, je soupçonne en effet qu'il s'agit d'une sorte de déphasage entre les deux tables du violoncelle. Donc ce serait, effectivement, l'équivalent, c'est un accident pour les musiciens classiques. Un Wolfstone, il faut tout arrêter et repartir. Alors là aussi, c'est comme ma musique, vous savez, toute ma musique est faite de fade-in, de fade-out et de cross-fade, très lent, et ça se fait très naturellement. Alors là, je crois qu'effectivement, j'étais attirée par ce son, parce qu'en effet, il était plus proche des sons que je cherchais, mais en cours de route, le Wolfstone est utilisé à peine peut-être 3 minutes dans une œuvre d'une heure. Ça a été le point de départ, mais autour de cela, s'est organisé tout le reste de la pièce. C'est assez particulier hein, de jouer ça, et je vous assure que ça exige une énorme virtuosité. Ce ne sont pas des débutants qui peuvent jouer ça. Et c'est étonnant, c'est une virtuosité qui n'est pas celle de la rapidité et le brio de l'exécution, mais l'infini contrôle de la plus infime nuance de l'instrument, de savoir le suivre, surtout que ce n'est jamais tout à fait la même chose, et c'est jamais tout à fait la même chose, qu'il faut là aussi écouter et suivre pour le développer.
On entend une archive d'Eliane Radigue tirée de France Musique le jour d'avant 2013. Elle parle du Wolfstone. Alors elle en a parlé en l'expliquant, mais pas complètement. Qui s'y colle?
Je pense que c'est Charles Curtis qui joue. Enfin, en tout cas, c'est souvent lui qui interprète les pièces d'Eliane Radigue. Et c'est drôle parce que son Wolfstone, c'est le même que sur mon instrument. Et du coup, je suis en train de me demander si c'est souvent ce mi qui est la note qui dérape dans la gamme sur un instrument.
Alors, c'est quoi le Wolfstone?
Sur un violoncelle.
Sur mon violoncelle. Ouais. Puisque là, on entendait un violoncelle et elle parlait des deux tables de violoncelle. Mais vous en avez aussi.
Ouais, mais nous, sur le dos.
C'est marrant parce que toutes les deux sur le dos. Ouais,
alors ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un loup?
C'est notre petit secret à nous. Enfin, on va pas. Moi, je peux vous parler de la sensation parce que, en fait, la lutherie, c'est une science tellement complexe qu'elle n'est pas précise. On ne sait pas comment. On n'a jamais réussi à expliquer précisément comment le son circule dans un instrument et comment il en sort. Ça n'a jamais été mappé, ou je sais plus, il y a un mot que je cherche que je ne trouve plus, mais là, Eliane, elle démarrait en expliquant que c'était peut-être un déphasage des deux tables. En tout cas, pour nous, c'est la note sur laquelle, si on joue du répertoire, on préfère ne pas s'attarder ou aller la trouver sur la corde d'à côté, où en général elle se trouve aussi.
Parce qu'il y a une résonance qui vous gêne.
Parce qu'elle coince, elle c'est comme si elle rentrait à l'intérieur d'elle-même, et elle est surtout totalement incontrôlable. Et si on s'attarde dessus, si on la garde, elle vit sa propre vie. Et on n'est plus cet instrumentiste qui maîtrise parfaitement son instrument et lui fait sonner exactement comme il le veut. Enfin, moi, c'est en tout cas mon rapport.
Je précise que tu faisais plein de jolis nœuds avec tes mains.
Ah oui, j'ai fait.
En disant ça, ce qui ne se voit pas à la radio.
Et vous alliez dire comment je la sens physiquement, cette note. Parce que il y a une résonance, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Cette note qui échappe, qui est le loup.
C'est un gouffre, elle se...
Je sais, moi, elle se propage, c'est différent, mais... Ça dépend de
elle a pas l'harmonie, elle a pas elle a pas la justesse harmonique qu'ont la plupart des autres notes. Enfin, en tout cas, la stabilité harmonique qu'ont les autres notes. Et je pense qu'elle rentre dans un. C'est pour ça on en parlait ce vacarme là que
suggère
qu'on a pris comme nom pour notre ensemble. Il est dans tous ces creux et dans toutes ces petites aspérités et dans ce qui grouille et bouge énormément dans le presque silence. Ou dans ce qui est toujours juste à côté de la chute et le loup, notre loup, il a un peu cette zone, ce petit trou noir dans notre gamme.
Oui, Carla Barlone, vous faisiez quelque chose avec la main qui
était
plutôt dans la vibration.
Une vibration tout à coup très frontale. Parmi les autres notes, tout à coup, quelque chose qui vient...
Vous faites face à face avec l'animal.
Ouais.
Parce qu'on s'est demandé avec Lise-Marie Barré pourquoi ça s'appelle le loup.
Ça.
Bah, ah ouh! Enfin, à la fin, c'est évident!
Alors, moi, j'en profite pour faire un petit clin d'œil. J'ai des jolis dessins de Julie Redon. C'est des loups-violons, donc des violous.
Des violous,
que j'aime beaucoup.
Ah, ben c'est pour ça alors.
Voilà. C'est sûrement pour
c'est
ça.
Tout simplement pour ça. Quand vous disiez, Gaspard Claus, c'est une note qui embête lorsqu'on joue du répertoire, mais est-ce qu'elle vous embête? Ou elle ne vous embête plus quand vous jouez votre musique? Ou est-ce que d'un seul coup, elle vous intéresse? Parce que vous parliez justement de ces petites choses qui échappent, mais peut-être que votre musique, elle procède beaucoup de ça.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut déranger dans la mesure où elle tombe pas forcément sur une note juste de l'instrument. Elle va faire entrer en vibration une note qui est peut-être entre le do dièse, alors qu'on est en train de jouer une tonalité en do, ça va nous sortir la tonalité. Alors que quand on part du principe que c'est cette note qu'on va jouer et que c'est ce défaut qu'on va développer, alors tout est possible.
Ouais, et puis il y a le rapport à l'instrument. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est aussi la personnalité de chacun de nos instruments.
C'est et l'accident qui est en improvisation, ce qu'on a mis sur ce disque, il n'y a que des improvisations. L'accident est une matière très importante à travailler. Il ne se provoque pas, mais quand il l'advient, une des belles façons de le laisser advenir, c'est de l'amplifier et de s'arrêter dessus et de le concentrer.
De le suivre, disait Eliane Radig.
De suivre l'accident, ouais. Oui.
Et du coup, de l'accueillir. L'accident.
Et du coup, devient un élément de composition dans l'improvisation. Et effectivement, j'aime bien cette idée que tout d'un coup, c'est le moment aussi où l'instrument s'exprime dans son caractère et dans chaque instrument a il y a des instruments là moi le mien je pense que c'est un peu un cheval fougueux, un dragster qui est assez difficile à maîtriser, qui passe son temps à s'exclamer de lui-même, et il y a plein de zones comme ça.
Votre violoncelle.
Mon violoncelle. J'en ai essayé un il n'y a pas longtemps, c'est une grosse berline.
Violoncelle voiture,
automatique, quoi.
Alors, comment vous décririez votre violon, par exemple, Christelle Lassor? D'abord votre violon et ensuite votre rapport à votre violon.
Oui, c'est ça, parce que dans ce que tu es en train de dire, Gaspard, tu parles de ton violoncelle, mais j'ai l'impression aussi que tu parles de toi, donc c'est intéressant. C'est la rencontre entre une personne et un instrument, le jeu qui se situe au milieu. Donc c'est intéressant la manière dont on en parle. Du coup, le mien, j'ai pas l'impression que je parlais de moi pour autant, mais il a une forme de rondeur et de douceur dans les graves et quelque chose de très très cinglant dans les aigus. Et donc il a quelque chose d'assez rond et en même temps beaucoup de caractère.
Vous jouez depuis longtemps ?
Ouais, depuis 1997, je pense.
Oui, c'est ça, on a choisi nos instruments il y a très longtemps, donc il y a un moment, on ne sait plus aussi si on a choisi l'instrument ou si on l'a fait à nous. J'ai l'impression que quand on joue toutes les deux, il y a aussi, par exemple, une répartition de la tessiture qui s'est fait assez naturellement. Mon violon, il serait presque, ou moi, je serais presque du côté de l'alto, quoi.
J'aime bien dire cette anecdote de David Oistrakh qui sort d'un concert et quelqu'un lui dit, waouh, quel son incroyable, votre violon. Puis lui, il prend son violon, il écoute, puis il dit, ah bon, bah, moi, j'entends rien.
C'était lui.
C'est ça, mais c'est les deux. C'est vexant
pour un musicien qu'on dise seulement qu'il est beau votre instrument.
Et là, c'est pas vexant, c'est simplement, ouais, c'est juste une dire
c'est dissocié,
en fait.
Pas tout seul, quoi. Ouais.
Peut-être, puisque vous parliez de la lutherie, est-ce que vous vous intéressez, alors vous disiez Carla Pallone, on ne sait plus si c'est l'instrument qu'on a fait à nous ou c'est l'instrument lui-même, c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous penchez au-delà des moments où il faut juste réparer son instrument, mais savoir comment c'est fait, comment c'est fabriqué, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé ou pas?
Moi j'aimerais beaucoup faire un archet, je fais aussi de la musique baroque, où les archers sont différents. J'aimerais beaucoup, par exemple, fabriquer un archer. Je pense que c'est envisageable. Fabriquer un violon, c'est carrément utopique. Donc voilà.
Mais savoir comment c'est fabriqué, c'est important?
Ouais, un minimum. Après, je suis pas chez mon luthier tous les mois, quoi.
Et vous?
Ouais, c'est important. Disons que je me suis beaucoup intéressée. Et maintenant, c'est quelque chose d'acquis, on va dire. Donc, voilà, moi non plus, je ne suis pas tout le temps fourré chez mon luthier, mais...
Oui, il y a une époque où je...
Vous étiez fourré chez votre luthier
en fait,
tous les mois.
J'allais dans des pays où il n'y avait pas de luthier avec mon instrument, et je me suis retrouvé dans des situations où il fallait le réparer, mais personne n'était là pour le réparer. Et du coup, j'ai fait un stage de lutherie rue de Rome, chez Bernard Sabatier, 2 semaines, et j'ai découvert un monde, parce que il y a la boutique, avec... les instrumentistes qui... Il y a quand même un truc un peu... ils arrivent avec leur violon et puis ils tirent la gueule et ils disent...
Il est malade.
Il marche pas. Vraiment, il marche pas. Et le luthier prend un beau tissu en velours et prend le violon. Il dit, ah, il marche pas. Oui, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Il est hyper rassurant et puis il le met sur le tissu en velours. Et moi, j'étais dans l'arrière-boutique et je le voyais arriver en arrière-boutique et le balancer sur la table. Tiens, tu me répares ça. Et poser l'instrument. Et ensuite, il y a tout ce... On fait tous des cauchemars d'instruments détruits.
Instruments oubliés, moi, plutôt.
Moi, je détruis, volé, disparu. Mais c'est la même chose que les hémophiles. Le son d'un violon, d'un violon qui fait crack, ça peut faire tomber certains instrumentistes dans les vapes, quoi. Et là, dans l'arrière-boutique du luthier, c'est genre crac, le décollage d'un
son. Il va donc vouloir te le dire.
Bernard, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris pendant ces 2 semaines.
Est-ce que ça a changé votre rapport à votre instrument que de justement passer en coulisses et d'entendre craquer le bois?
Ça démystifie, en fait, ça démystifie un peu, mais je suis heureux qu'il y ait une mystification forte parce qu'il y a un respect pour un instrument qui est naturel chez tout le monde. Il y a une attention toute particulière. J'ai même réalisé, je n'ai jamais entendu parler d'un chat qui se fait les griffes sur un instrument de musique. Et ça m'a toujours surpris. Je vois chez mes parents le chat se faire les griffes partout, mais on avait l'instrument à l'air libre et le chat ne s'y est jamais mis. Je pense qu'il y a une aura autour de ces bêtes-là qui fait qu'on n'y touche pas. Alors qu'en fait, c'est un meuble. C'est un beau meuble, très très beau meuble, mais c'est un meuble, c'est du bois, et c'est collé, et il y a des histoires de pression, puis c'est un meuble qui a vécu, et qui est rempli de fantômes aussi.
On ne peut pas affronter ou s'approcher de l'autre, du musicien, de l'autre instrumentiste, libre, je veux bien, mais s'il n'y a pas fondamentalement une grande, grande connaissance de son instrument. Je parle de musique instrumentale, hein, je parle du perform, on dit en anglais, je parle du musicien, je ne parle pas du compositeur. Mais ça... Et je suis pas la seule, hein, quand je dis ça m'a sûrement donné et informé, c'est comme vibratoire, ces sujets d'écriture, parce qu'il y a eu ces époques-là. Il y a eu dans les musiques de cette grande maison Radio France, on sait ça, les pierres, il y a eu beaucoup de pierres. Les Pierre Henry, les Pierre Schaeffer, qui coupaient les bancs. Alors il passait à la maison, ça faisait à l'envers. Donc c'est génial. C'était le geste, l'erreur, même le ratage. Vive le ratage. Beckett qui disait rater, rater beaucoup et rater encore. Et au fond, c'est de la vie quand on s'aperçoit qu'on improvise. Si on s'en aperçoit. Moi j'appelle ça, comme j'ai travaillé quand même plus de 10 ans avec Chelsea, la conscience aiguë, il disait, cette fameuse conscience. Si on s'aperçoit, on entend ce qui se passe. Ben, on sait un peu plus, on est un peu plus éveillé ou réveillé. Et cette conversation-là, ben, moi, je crois beaucoup plus en l'intimité. Donc oui, je crois immensément dans la musique, au duo, trio. C'est extraordinaire. Parce qu'on entend mieux.
Qui chuchote ?
Moi. Pardon, c'était moi.
Vous disiez quoi, Gaspard Claus ?
J'étais content de reconnaître, d'entendre Joël, Léandre.
C'est une archive où elle parle de plein de choses en même temps, hein.
Oui,
ça fuse.
Comme toujours.
Et elle dit on entend mieux quand on joue en duo, en trio, et quand on se rend compte qu'on improvise, en fait, simplement, on a une conscience aiguë qu'on est en vie. Vous disiez que pour ce disque Vacarme, vous avez mis sur un disque beaucoup de moments d'improvisation, que des moments d'improvisation, mais pas tous les moments d'improvisation. Comment avez-vous travaillé ?
On a passé 2 jours enfermés dans un magnifique studio à jouer. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu d'ailleurs, comme souvent. Et on se retrouvait pour improviser, pour créer de la matière et partir de textures et se dire que de là allait sortir des morceaux. Et en fait, on a simplement pris dans nos improvisations. C'est uniquement de l'improvisation qui a été un petit peu travaillée, un petit peu séquencée.
Bah, il y avait beaucoup d'inconnus aussi, parce qu'il y avait quand même ce questionnement d'enregistrer une improvisation. Je trouve que c'est toujours un peu... peut-être bizarre de faire ça.
Mais vous y alliez avec confiance, c'est-à-dire c'était la décision de dire on s'enferme dans un studio, on joue, on improvise... On s'enregistre.
C'est risqué quand même. On prend du temps. On part. C'est le moment où on ouvre 2 jours pour faire cet album dont on parle depuis des années, et on n'a rien préparé. On ne sait pas ce qui va en sortir. On n'arrive pas avec des partitions qu'on a bossées et si on est dans 2 mauvais jours, on n'aura pas un bon album, en gros. Enfin, il y avait cette prise de risque là. Et d'ailleurs, on est sorti du studio avec énormément de matière et c'était un peu
de
doute. Ouais, c'était hyper vertigineux et pendant un moment, moi, je pensais qu'on l'avait pas. Et il s'est dessiné. On s'est vu plein de fois. Et le disque, c'est comme si on a tiré un fil et petit à petit, le disque s'est a pris forme presque par lui-même à partir de cette grosse masse de matière qu'on a fournie pendant 2 jours, où on savait pas trop si c'était bien ou pas ce qu'on était en train
de faire. Et vous avez tiré quoi comme fil ? Vous vous êtes dit, on va dessiner ça, ça va avoir cette couleur, c'est à cet endroit qu'on veut être, c'est cette musique qu'on veut jouer ?
À partir de ce qu'on a fait, oui. Parce que ça ne définit pas forcément Vacarme, ce disque. Ça définit Vacarme à ce moment-là. Mais à partir de la matière qu'on avait, oui, ces 2 jours-là, on en a extrait une forme de voyage.
Ouais, et puis moi j'ai trouvé une certaine légèreté parce que finalement, on est allé en studio avec confiance, avec plaisir aussi. Et si je suis contente du résultat maintenant, j'étais aussi surtout déjà contente de l'expérience. Donc oui, après c'était des couleurs, quoi.
Et c'est de la légèreté que vous entendez, vous, quand vous écoutez le disque ?
Ah, moi, je suis pas vraiment du côté de la légèreté. Je suis pro-mineur, quoi.
Pro-duo, pro-mineur.
Militaire.
Voilà. Dès que Carla est absente, on joue en majeur avec
oui,
Gaspard.
On a fait... l'autre jour à la radio, il y avait que Christelle et moi, et on a fait du majeur et du majeur et du majeur. C'était bon.
Ça serait jamais arrivé.
Et on espère que Carla n'écoutera jamais cette émission. Mais...
Non, parce que quand on écoute le disque, personnellement, je ne ressors pas avec l'idée d'une légèreté.
Non, oui, je suis d'accord sur le résultat. Mais je parle d'une légèreté à le choisir pour nous.
Quand vous l'écoutez, vous, qu'est-ce qui ressort ? Même si j'imagine que pour vous, l'écoute est différente.
Moi, j'ai pratiqué une fois qu'il a été terminé dans notre, en tant que montage, il y a des amis qui étaient curieux. Je les ai invités chez moi, je les ai mis sur le canapé un par un, le disque dure 40 minutes et je leur ai proposé d'écouter ce disque sans rien faire d'autre. Et j'avais pensé que j'irais me planquer dans ma piole pour pas en avoir marre de ce disque. Je l'écoutais à chaque fois avec un certain plaisir de rentrer dans une écoute microscopique ou une écoute profonde, comme l'appelait Pauline Oliveros. Et du coup, je continue aujourd'hui à entendre des choses que je n'avais pas encore remarquées dans ce disque après un nombre assez important d'écoutes.
Et alors, sans plaquer des thématiques ou des couleurs, mais qu'est-ce qui ressort? Comment est-ce que vous parleriez de ça?
C'est pour ça qu'on a appelé chacun de ces morceaux V-A-C à l'envers. On a commencé à discuter entre nous des titres, des noms qu'on donnerait aux morceaux. Et de suite, ça leur donnait trop de... Ça les tirait immédiatement vers quelque chose. Ténébré ou... Enfin, je sais pas, il y avait l'aube, le crépuscule...
Et ouais, des choses qui étaient un peu plaquées.
Ça empêchait la musique d'exister par elle-même. Et un jour... on a réalisé qu'il y avait sept morceaux et sept lettres à vacarme, et on s'est dit que c'était tout ce qu'on avait envie de dire, enfin qu'on voulait vraiment laisser la musique être ce qu'elle doit devenir dans les oreilles de ceux qui l'entendent. Du coup, désolé, je ne vais pas répondre à cette question.
Pas de problème, c'est comme si vous y répondiez.
D'accord. Par les temps qui courent,
Marie Richeux.
Oi, pour 16 cordes avec celle-ci. 16 cordes. Je me demandais, vous qui travaillez avec d'autres musiciens, avec des personnes qui chantent, avec des personnes qui jouent du piano, avec des personnes qui jouent de la batterie ou même des machines électroniques, qu'est-ce que ça fait de ne jouer dans ce projet Vacarme qu'avec des cordes? Est-ce que ça change?
Carla.
Moi, je trouve ça douillet.
C'est-à-dire, on est chez soi, quoi.
Ouais.
C'est vrai.
Ah, jouer avec des flûtes, par exemple, je trouve ça très compliqué.
Oh, pourquoi? Tu joues avec des flûtes?
Ouais.
Oui, on peut faire des choses compliquées.
Oui.
Il y a le droit.
Qu'est-ce qui est plus compliqué quand on joue avec des instruments qui ne sont pas si proches?
Il y a un truc pour moi dans la prise de son, dans le geste aussi, peut-être, dans le frottement. Dans lequel on se retrouve. À vous.
C'est différent. Tout est. Il n'y a pas de compliqué ou de pas compliqué. C'est. Moi, j'ai l'habitude aussi de jouer avec des cordes dans des ensembles plus. Dans des formes beaucoup plus classiques, dans la musique pop, on va dire. En studio, par exemple. En quatuor à cordes. C'est très différent avec Vacarme parce qu'il y a une liberté permanente qui fait qu'on est suspendu à notre propre écoute et à l'écoute des deux copains. Et donc, c'est plus tellement l'expérience de jouer avec d'autres cordes, mais l'expérience de construire ensemble. Et puis aussi toutes les aspérités qu'on s'autorise à garder, qu'on s'autorise pas à garder avec les autres projets, par exemple, plus formels et magnifiques aussi. Mais ici, on est vraiment dans la liberté totale de fendre un silence, de laisser craquer son instrument, de profiter de la note du loup. Enfin, on est vraiment dans une expérience particulière avec Vacarme. On pourrait avoir d'autres instruments dans les mains, je pense. Il s'agit plus d'une performance et d'une. Quand on se retrouve à jouer en public, je pense qu'on emmène les gens vers notre propre improvisation, mais on s'emmène aussi. Enfin, je crois que c'est un voyage partagé.
Ça fait penser ce que tu dis à la démarche d'écriture d'Eliane Radig, qu'on entendait tout à l'heure, ouais. qui n'écrit pas pour des instruments, mais pour des instrumentistes. Donc elle met une partition dans la tête de quelqu'un et pas sur un papier pour qu'il soit joué. Et cette partition, elle appartient à ce musicien qui, d'ailleurs, un jour, peut recevoir un coup de fil d'Eliane qui lui dit « À partir de maintenant, tu peux la transmettre. » Enfin, de ce que j'ai compris, hein, de ce que m'a raconté Carole avec qui elle travaille. Et cette partition, c'est souvent plus un état de jeu qu'une matière à jouer. Donc elle travaille une mise en état de jeu du musicien. Et c'est un peu ce qu'on cherche à atteindre avec Vacarme quand on se retrouve à jouer ensemble. On ne sait pas où on va. Des fois, on se donne des petites indications, des points de départ, où est-ce qu'on se trouve dans la salle, ou sur quelle note on part, où on va être... On va faire beaucoup de respiration, où on va être intense, mais tout le truc, c'est de se retrouver dans un état de jeu particulier qui nous réunit, qui nous rassemble.
Et qui est tendu ou possible, ou rendu possible par quoi, cet état-là?
Ça, c'est bien mystérieux.
Non, parce que si Eliane Radig a des partitions d'état de jeu, alors est-ce que Vacarme a des partitions d'état de jeu?
Alors, comme vous faisiez là, un peu sur votre feuille, parfois on fait des dessins pour se donner une idée des directions qu'on veut faire. Et surtout, avant de jouer, on aime faire juste des sons ensemble. Très calmement, pour se rendre plus disponible, peut-être.
Des sons joués ?
Des sons, ouais, des sons filés, comme on appelle ça.
C'est quoi, des sons filés ?
C'est des notes très longues.
Tenues.
Sans vibrato.
Très pures, très longues. Pour essayer de se retrouver sur ces notes, sur une justesse, sur un état d'esprit, en fait.
Et il y a la situation elle-même d'être en scène, devant un public... Et top, c'est parti. Maintenant, on joue, on ne sait pas ce qu'on va jouer,
ouais,
qui est
ça.
En soi intense et qui nous met forcément dans un état qui n'a rien à voir avec le reste de notre existence.
Est-ce qu'il s'est reproduit en studio ? Est-ce que vous avez réussi à reproduire en studio ? C'est ce top, on joue et on ne sait pas ce qui va se passer ? Parce que jusqu'à maintenant, vous ne jouiez que sur scène.
Mm-hmm. Ouais, on a réussi.
Oui.
Il y avait une petite urgence quand même. On avait seulement 2 jours. Puis à un moment donné, la lumière rouge s'allume et c'est le moment d'imprimer, de vernir. C'est très étrange d'ailleurs le fait de vernir. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est bizarre d'enregistrer une improvisation.
Ouais.
Moi, je pense même que l'enregistrement modifie les choses, même quand on n'est pas au courant que c'est enregistré. Je crois qu'il y a une force de l'enregistrement. Qui est dans l'air, qui est pas juste dans le cerveau de celui qui sait qu'il est en train d'être enregistré.
Quand vous parliez tout à l'heure de notes filées ou de sons filés, évidemment difficile de ne pas penser à ce que vous avez fait avec cette note-là, tenue pendant 10 heures d'affilée.
qu'elle nous dit.
À la Philharmonie. Ouais.
À la Philharmonie de Paris. 10 heures où jamais cette note ne s'est éteinte.
Tout à fait.
Qui nous raconte, vous avez tous les yeux complètement qui brillent quand on parle de cette nuit-là. Qui nous raconte?
C'est un grand voyage tous ensemble.
Bah ouais, j'imagine. Alors c'est... peut-être raconter, je ne sais pas, le cadre de départ, l'idée de départ.
L'idée de départ, c'était, c'est né encore une fois d'une improvisation qu'on avait fait pour la blogothèque dans la rue, dans la, même dans la cour d'un dans la cour de l'immeuble d'un peintre.
À minuit. À
c'est
minuit.
Internet qui filme des musiciens dans des lieux plus ou moins prévus pour
voilà.
faire de la musique.
Et on jouait dans la rue et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on dérangeait certaines personnes et un monsieur nous a invités à jouer dans sa cour. Et c'était un peintre, un artiste plasticien très sympathique. Donc on a joué dans cette cour, il faisait nuit. Et cette
ça
nuit,
résonnait beaucoup.
Ça résonnait beaucoup. On a vu aussi des lumières s'allumer et les gens apparaître à leurs fenêtres. On a fait quelque chose de très méditatif. D'ailleurs, qu'on a ensuite appelé la méditation. Sur une note en la. Et chacun, son tour, on prenait la parole de façon... C'était pas vraiment des solos à proprement parler, mais plus pour décrocher de cette note tenue. Et puis replonger ensuite dans cette note tenue.
Tandis qu'elle était tenue par les deux
Tandis
autres.
Tandis qu'elle était tenue par les deux autres, tout à fait. Et c'est devenu un de nos morceaux, du coup, on improvise la majeure partie du temps, mais celui-là, c'est une petite recette qu'on aime bien faire.
Ouais. Et surtout à la fin, on s'est rapprochés.
Et surtout à la fin, on s'est rapprochés tous les trois, les archers s'entremêlaient, on ne savait plus qui jouait quoi.
Ouais, c'était le là qui nous enveloppait.
C'était un moment très magique, ouais. Et ça faisait un moment que moi, par exemple, j'avais envie de faire ça sur une durée beaucoup plus longue, peut-être... dans des hôpitaux, ou parce que je trouvais qu'il y avait une dimension de soin dans cette note tenue qui pouvait ressembler à ce qu'on peut vivre dans un soin au bol tibétain par exemple. Et je me disais faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose de ça, ou alors qu'on le joue dans un endroit un peu insolite, à résonance, etc. Et puis on n'avait pas encore trouvé l'occasion, et c'est là que Gaspard intervient, puisque
oui, voilà, à la Philharmonie de Paris.
C'est des copains, on voilà.
m'appelle. Ouais, c'était pour la nuit blanche, en fait. Ils ouais, ont demandé un peu qu'est-ce qu'on pouvait proposer, et notamment Vacarme. Et je crois que ça portait le terrible nom au début du marathon du La, qu'on a réussi à transformer en la nuit en La. Parce que je pense que ça avait venu de moi, d'ailleurs, en rigolant, j'avais dit on veut faire un marathon du La. J'avais parlé de 21 encore de voiture. On avait parlé de 24 heures, un La qui durerait 24 heures, qu'on a réduit à 10 heures, ce qui est quand même assez long. On a joué de 20h30 à 6h30 du matin. Et on a invité dans la SR1, qui est un beau studio de répétition à la Philharmonie, on a invité 7 musiciens à nous rejoindre. Et il a fallu penser à un instrumentarium qui fonctionne on n'avait jamais fait ça. Ouais. Et notamment il y avait une guitare électrique et un synthétiseur analogique qui devait tous les autres instruments jouaient acoustique, donc fallait retrouver le bon niveau, la bonne place. Il y avait Elise Dabrowski à la contrebasse, une vie à la roue, Carole Robinson au vent, d'autres vents chez Mathieu Pruel. Violon et viol de gambe.
Et vous étiez, vous, tenu de la tenir, cette note? C'est-à-dire que, parce qu'il faut, dans ces 10 heures, qu'elle ne lâche pas, elle ne s'éteigne pas.
D'où l'idée d'inviter pas mal de
monde.
Vous avez pris des petites pauses.
Moi, j'ai pris 3 pauses de 15 minutes. Plus que ça. Mais je pensais qu'on avait préparé un peu le truc. J'ai demandé à une amie, ostéopathe, Théodolinda, de venir pour dans les loges, nous aider à nous remettre. Je pensais que ça allait être un peu sportif, cette affaire. Et on a préparé une loge pour chacun. Et on avait un peu.
Pour dormir.
Ouais, pour pouvoir dormir.
Et on a. Si besoin.
J'avais peur un peu. Parce que quelques heures avant qu'on démarre, je me disais, mince, ça va être dur pour le public, pour nous, pour les musiciens qu'on a invités. Dans quel état on va sortir de ce truc-là?
Secrètement, on était tous dans cette inquiétude-là. Ouais. Et finalement, ce bain, on n'arrivait pas à s'en sortir.
Ouais, à la première seconde où il a sonné.
On a fait très peu de pause. Ouais.
La première pause, c'était 3 heures après, et j'avais l'impression qu'on venait de commencer, et je me suis dit, attends, je vais faire une pause pour pas être épuisé plus tard, mais je me suis forcé à sortir on était en cercle, ça a duré 10 heures, on en a pour toute la nuit pour vous raconter ce qui s'est vraiment passé là-bas. Ça nous a fait beaucoup de bien.
Non, encore un petit peu.
C'était, ce qui était fort aussi, c'était le encore une fois l'expérience avec les gens qui venaient écouter. Ça nous était jamais arrivé de nous retrouver avec des gens pendant des heures comme ça et de voir leur état changer aussi, s'endormir, se câliner. Il y avait des gens qui étaient sous substance, je pense, d'autres complètement. Il y avait des enfants au début. Il y avait vraiment toute forme de gens et à la fin des gens complètement abandonnés dans des positions presque fœtales en fait, cette expérience, on n'aurait jamais pu la vivre sans la présence des gens, parce que c'était intenable. C'était juste ce partage, on se retrouvait là au milieu, on savait plus qui créait ce son, si c'était l'écoute des gens, si c'était nous, si c'était. Et donc, c'était vraiment un voyage sensoriel qui nous a accompagnés longtemps, 2 à 3 semaines après. Hein, ça a vraiment agi très longtemps physiquement. Ouais.
Tout à l'heure, vous disiez, j'avais envie de faire donc cette première expérience dans la cour d'immeuble ou chez cet artiste-là, de la prolonger, de l'étirer et de le faire dans un lieu de soins. Qu'est-ce qui fait ? Alors, on dit beaucoup, même à ce micro, on dit beaucoup, la musique, ça fait du bien, la littérature, ça fait du bien. Et moi, j'aime bien qu'on essaye d'étayer un peu cette parole-là. Qu'est-ce qui fait que ça fait du bien ? Par exemple, vous, Christelle Lassort, pourquoi vous vous dites que ce serait bien qu'on joue dans un endroit où il est question de prendre soin des autres ?
Parce que pour moi, la musique, elle a cette fonction de soigner à partir du moment où c'est quelque chose d'immédiat et qu'on est constitué d'au moins 70 ou peut-être 80, je ne sais plus, pour cent d'eau.
80 même, ouais.
80, voilà. Ça vibre directement. C'est vraiment, pour moi en tout cas, l'art le plus instantané, qui agit directement.
Comme sur... le toucher, vous voulez dire, finalement.
Ouais, voilà. C'est vraiment un toucher, c'est de la vibration. Et donc, ça agit vraiment. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer d'ailleurs, qui m'habite, la musique et le soin, mais pas de façon protocolaire, pas de venir musicothérapeute ou art-thérapeute, mais vraiment dans cette action spontanée d'aller rencontrer des gens ouais, je sais pas vous expliquer par quel biais ça soigne, mais en tout cas, j'en suis convaincue, ça soigne.
Toi qui hurle sans gueule, mort sans dents, fascine sans yeux, face creuse. Toi qui fais bondir la pantomime des ombres et des lumières, coupe sans faux, arrache, claque et bat, sans bras, sans main, sans fouet, sans fléau. Fléau toi-même, vent, levant du levant. Toi qui mets le tonnerre au cœur de la forêt et fais courir les géants de sable au désert. Père des vagues, des cyclones, des tornades, déformant d'hystérie la face de la mer, jusqu'à la trombe. Coït de l'eau salée et du ciel sucré, char ailé de la Dame Blanche, reine des tempêtes de neige. Toi qui bossues les dunes et les dos des chameaux, toi qui ébouriffes la crinière des lions, qui fait gémir les loups et chanter les roseaux, les bambous, les sistres et les harpes. Toi qui fais tomber les pots de fleurs sur les sommets des citoyens pour leur ouvrir la tête.
C'est le R avec un poème lu par Romain de Bec de Lièvre. Pour parler un petit peu du vent, c'est le R de Vacarme. Et c'est pas la première fois, Gaspard Claus, qu'on va parler du vent avec vous, parce que c'est pas la première fois qu'on vous reçoit. En revanche, c'est la première fois qu'on vous reçoit, Carla Pallone et Christelle Lassor. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup de l'air dans ce R-là, évidemment, mais de manière générale, du vent. Pourquoi ?
Merci pour le poème. C'est un de mes plus. J'aime tellement ce poème de Gilbert Lecomte. Parce que c'est une harangue au vent. On s'adresse pas au vent. Le vent nous traverse et le vent est là, nous fait tomber. Nous, mais on ne pense jamais à lui dire de se calmer ou d'aller voir ailleurs ou merci ou.
Parce que c'est aussi un poème qui lui dit merci quand même.
Oui, c'est aussi un poème qui lui dit énormément de choses. D'un poète qui a eu une vie courte et très peu aérée, justement. Je pense qu'il manquait d'air, Gilbert Lecomte. Et dans le cas des cordes, pour revenir aux cordes, la flûte qui est traversée par le vent, les premières flûtes étaient faites dans des os d'animaux qui avaient été chassés. Et je pense que ce son-là était pour entrer en communication avec l'esprit de ces bêtes-là, pour les remercier de s'être laissés manger. Et puis, le vent passait par là et la corde était plus celle de l'arc qui, au bout d'un son de corde, il y a la mort. Au bout d'un son de corde, il y a une flèche et il y a la mort. Enfin, à l'origine, je pense. Et redonner du souffle grâce à l'archer, à cette corde qui tendue peut tuer. C'est par le vent qu'on transforme nos instruments en instruments qui peuvent communiquer avec les au-delà de soi, en gros. Enfin, à mon avis.
Par le vent, par le souffle, par la respiration, dans le R, dans ce R de Vacarme, c'est vraiment, vraiment ça qu'on entend. On n'entend pas forcément des violons respirer, on entend des présences respirer. C'est ce que je disais au début, Carla Pallone, Christelle Lassor.
Moi, je trouve qu'il donne froid, un peu, ce morceau. Ça me fait vraiment ressentir le vent.
C'est parce que t'es nantaise.
Que j'adore, par ailleurs. C'est marrant parce que justement, au moment où on travaillait sur les titres de l'album, je vous avais proposé « C'était de très grands vents » de Saint-John Perse.
Beau poème aussi.
Ouais.
Oui, c'est ça, il s'agit de souffle, de respiration. Il y a beaucoup d'air dans ce disque, en effet. C'est
parfois
le cas
même de l'air, pardon, je vous coupe, mais bah, c'est le cas de le dire, de l'air qui coupe, c'est-à-dire de l'air, vous disiez tout à l'heure, je crois que c'était vous qui disiez des césures de silence.
Voilà, c'est ça.
Parfois, c'est aussi de l'air dans la partition de ce que vous jouez, quoi.
Ouais, c'est quelque chose qu'on s'autorise beaucoup à expérimenter aussi avec Vacarme. C'est tout ce qu'il y a entre les sons nous intéresse, jusqu'aux sons qui peuvent être dans la pièce, dans le public. Je me souviens d'un concert au Cirque Électrique où on jouait tout près du périphérique. Et on entendait beaucoup le son des voitures passer, comme une espèce de flux, comme ça. Et on avait décidé de jouer avec. C'est vraiment ça, c'est jouer avec. C'est entrer en résonance avec l'espace dans lequel on est, avec les gens qui nous écoutent. Et entre nous trois, il se passe beaucoup de choses dans les moments où on ne joue pas, qui peuvent être quelques secondes, qui peuvent être beaucoup plus long, et on aime bien jouer avec cette tension et cette détente de la note qui vibre et de la note qui ne vibre plus et de ce silence qui est toujours de la musique.
Comment on respire quand on joue du violon ou du violoncelle?
Moi j'ai cette expérience il y a une époque où je jouais puissamment en investissant tout mon corps et en bloquant ma respiration, en ayant la mâchoire serrée, et je m'épuisais très très vite. Et puis j'ai appris à aller chercher la même puissance en ménageant mon corps et surtout ça passe par la respiration. Ne pas oublier de respirer, ouais.
c'est un peu la même... ça devrait se situer à peu près au même endroit que la respiration d'un chanteur ou d'une chanteuse. Respirer dans le ventre et puis dans l'expire, donner le mouvement comme tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, sans s'en rendre compte, mais aussi comme le sport, t'as raison.
Je me souviens d'une fois où tu m'as raconté que t'avais choisi le violon parce que c'était chanter sans mots.
Oui, c'est vrai. Petite fille, je disais à mes parents, je voulais faire du violon très tôt, et ils me disaient, mais pourquoi le violon? Et je leur répondais, parce que c'est comme une voix. Et c'était ça, c'était l'idée de souffler, de chanter par le biais d'un autre.
Et pourtant, les uns et les autres, les unes et les autres, vous êtes jamais loin des mots. Par exemple, bon là, on sentait que vous étiez très ému, Gaspard Claus, d'entendre ce poème. Vous citiez Saint John Perse. Vous travaillez avec des artistes qui écrivent des chansons, qui écrivent de la poésie même.
Ouais,
c'est un endroit qui est jamais loin de vous.
Parce que tout est relié. Parce que... ouais, la musique, c'est des mots sous une autre forme.
C'est plus la poésie les mots peuvent relever de la poésie et de choses que j'aime pas aussi. La musique peut relever de poésie et de choses que j'aime pas non plus. Et ainsi que les choses qu'on voit, le travail du bois. C'est plutôt qu'il y a certaines manières d'agencer les mots et certaines manières d'agencer les sons
qui
relèvent de ça et que ça se retrouve dans plein de domaines différents. Pour ça que tout se mélange.
Et dans votre disque. Merci beaucoup à Merci. Tous les trois. Carla Merci. Pallone, Christelle Lassor et Gaspard Claus. Vous êtes Vacarme. Vous avez sorti un disque, le premier au disque du Festival Permanent. Vous êtes en concert le 1er mars à Paris. Mais il y a déjà trop de monde. Mais vous êtes aussi en concert à Paris. Et il n'y a pas encore du monde.
Le 2 mars. Il n'y a encore personne. Il faut venir.
On mettra ça sur le site internet de l'émission. Merci à tous les trois. Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous manque?
Du temps.
De la verdure.
Du sommeil. Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fâche?
L'injustice. L'individualisme.
Pas grand-chose.
Par les temps qui courent, où aller s'asseoir?
Où aller s'asseoir?
Au bord de l'eau.
Là où on est.
Après-demain, chez des amis, pour me reposer.
Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h sur France Culture avec Hélène Cixous. Ça, c'est un rendez-vous. Quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast, ce soir au son c'était Manuel Couturier, à la réalisation Lise-Marie Barré et à la préparation comme chaque soir, Jeanne Aléos, Corinne Amar et Romain Debec de Lièvre. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.